Nous avons rappelé l'œuvre de Jésus-Christ. Nous voulons à présent nous mettre à l'écoute de son enseignement. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a longtemps déjà, nous avions commencé l'étude du Sermon sur la montagne. Et cela fait depuis avant Noël que je n'ai pas eu l'occasion de le reprendre par toutes sortes de circonstances qui ont fait qu'il fallait prendre la parole dans d'autres contextes. Mais nous retrouvons à présent cet enseignement de Jésus, cet enseignement fondamental du Seigneur Jésus. Et nous allons lire en fait juste une instruction que le Seigneur donne, un principe qu'il nous laisse si nous voulons être ses disciples. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Pas plus que cela. Comment dire en une parole, en un tweet, la règle d'or des relations humaines ? Un tweet, je le rappelle, est un message qui ne peut dépasser les 140 signes. Je vous ai dit toute ma science du tweet. Mais Jésus ici fait très fort. En 104 caractères, 104, il donne une règle d'or qui résume la loi et les prophètes sur le sujet des relations humaines. En 104 caractères, il nous indique une manière de considérer l'autre et d'agir en sa faveur qui nous place au cœur de ce que Dieu attend de nous. Ainsi, dit-il, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Jésus avait déjà résumé la loi et les prophètes en un double commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce deuxième volet que Jésus précise maintenant. Comment aimer notre prochain comme nous-mêmes ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est clair, net et surtout éminemment pratique. Mais attention, certaines petites phrases de Jésus ont un côté redoutable. Elles se saisissent de nous, elles ne nous lâchent plus. Elles ont un aspect de poil à gratter, vous savez, qui démange, qui ne laisse pas tranquille. Ceci dit, si c'est pour le bien, ça peut valoir la peine. Jésus ici fait la preuve de son art d'enseignant, de formateur. Il aurait pu se contenter du grand principe « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais il va plus loin. Il nous transmet une manière concrète de traduire ce grand principe. Avec Jésus, le concret a sa place, n'est jamais dénigré, n'est jamais dévalorisé. Et Jésus trouve une manière plutôt féconde de nous engager dans ce concret. Cette formule permet d'accomplir, Jésus le dit, la loi et les prophètes. Elle exprime aussi tout l'esprit du sermon sur la montagne. Un petit mot l'indique. Ainsi donc, c'est pas dans toutes les traductions, mais c'est dans l'original. Ainsi donc, dit Jésus, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. La parole de Jésus avec ce « ainsi donc » se situe comme une sorte de conclusion qui vient au terme de bien des choses déjà dites. Luc d'ailleurs choisit d'exprimer cela en plaçant cette règle d'or de Jésus juste après les commandements qui vont le plus loin dans le sens de l'amour du prochain. Vous savez, l'amour de l'ennemi, prier pour ceux qui nous maltraitent, chercher le bien de ceux qui nous haïssent. Juste après ça, Jésus dit, dans Luc, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce ne sont donc pas juste la loi et les prophètes qui sont résumés par cette formule, mais tout l'enseignement de Jésus lui-même. Cette parole, donc, porte de manière forte la marque personnelle de Jésus. Ceci dit, est-elle aussi originale que ça? Il faut être honnête, d'autres ont eu des formules assez semblables avant Jésus. Confucius, au 5e siècle avant Jésus-Christ en Chine, enseignait « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. » Très proche. Les stoïciens enseignaient la même chose, les philosophes grecs, très portés sur l'éthique. Peu avant Jésus, le rabbin Hillel avait eu lui aussi des mots très proches. On avait soumis ce rabbin à un test impitoyable. Quelqu'un s'était planté devant lui, debout, sur une seule jambe, et lui avait dit « Enseigne-moi toute la loi le temps que je puisse rester debout sur une seule jambe sans poser le pied. » Un collègue d'Hillel, son rival Shammai, qui était plus strict que lui, n'avait pas osé relever le défi. Mais Hillel avait accepté. Il a dit à l'homme, « Allez, vas-y, lève ton pied, tiens-toi devant moi. » Et il lui avait dit, debout, à cet homme debout devant lui sur un pied, « Ce que tu n'aimes pas pour toi-même, ne le fais à personne. Voilà toute la loi, tout le reste n'est que commentaire. » Et le gars a pu poser son pied. Et Hillel a gagné. Alors quoi? Jésus, un moraliste comme les autres? Il faut peut-être d'abord dire que ce ne serait pas choquant. Ce ne serait pas choquant. Pourquoi Jésus ne pourrait-il pas reprendre une belle et juste pensée, même si elle s'est formée ailleurs? Les sages de l'Ancien Testament ont bien repris des proverbes qui venaient d'en dehors d'Israël. Dieu n'a pas limité l'intelligence, ni la sagesse, ni le sens de la justice à ses seuls enfants, heureusement pour le monde. Pourtant, malgré les ressemblances, cette parole de Jésus va plus loin. Les formulations que nous avons relevées, vous l'avez certainement noté, sont toutes négatives. Elles demandent d'éviter de faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse à nous. C'est déjà pas mal. Tu n'as pas envie qu'on te trahisse, agis de même, ne trahis pas. Tu n'as pas envie qu'on dise du mal de toi, agis de même, veille sur tes paroles. Jésus adopte donc la même logique, mais lui donne une forme positive. Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Ce n'est pas juste une limite, c'est une invitation à l'action positive, concrète. L'accent se déplace. On dépasse le « tu ne feras pas » pour inviter à l'initiative du « tu feras ». Agis, dit Jésus, prends l'initiative vers ton prochain, sois inventif, sois proactif. Jésus, le premier dans l'histoire, a donné cette tournure positive à ce principe. C'est là son originalité. Et nous voilà rassurés. Jésus, c'est le meilleur. Il a vu plus loin que tout le monde. Il est formidable, notre Jésus. Quelle sagesse, quelle élévation. C'est vrai que la sagesse de Jésus est remarquable. Mais ce n'est pas cela, l'enjeu. On n'est pas ici dans une cérémonie du César de la meilleure formule. Cette parole, Jésus l'a prononcée pour que nous la vivions. Pour que nous la vivions. Il ne s'agit donc pas de s'enorgueillir plus ou moins de la sagesse supérieure de Jésus, mais bien plutôt de nous examiner nous-mêmes, humblement, réalistement, face à cette parole que Jésus nous adresse. Ne nous glorifions pas par procuration. Si Jésus va plus loin, c'est qu'il veut que nous allions plus loin. S'il met la barre plus haut, c'est qu'il attend que nous allions plus haut, grâce à son œuvre en nous. Comment donc nous approprier cette parole de Jésus? Considérons d'abord son mouvement. Cette parole de Jésus peut nous conduire loin. Pourtant, elle part de ce que nous sommes chacun. Jésus met son point de départ à la portée de chacun. Et quel est-il, ce point de départ ? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Jésus vient nous chercher en terrain connu. Qu'aimeriez-vous que l'on fasse pour vous ? Qu'aimeriez-vous recevoir des autres ? Qu'attendez-vous des autres ? Voilà au moins une demande à laquelle nous ne sommes pas à court d'idées, n'est-ce pas ? En toutes sortes de situations, il est facile de nous représenter ce que nous aimerions que les gens fassent pour nous. Nous ressentons instinctivement ce dont nous aurions besoin, ce qui nous ferait plaisir, ce qui compterait pour nous. Si d'aventure même nous avions fait une expérience négative, où les autres n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, ce qu'ils auraient dû être, ce qu'ils auraient dû faire pour nous, est d'autant mieux imprimé en nous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Le catalogue est bien rempli. Nous aimerions qu'on s'intéresse à nous, qu'on nous considère, qu'on nous accepte, qu'on soit juste envers nous, que de temps en temps on ait un geste sympathique à notre égard, qu'on nous encourage, qu'on apprécie ce que nous faisons, qu'on nous aide quand nous sommes dans la peine, qu'on vienne à nous lorsque nous sommes seuls, et tant de choses encore. Et Jésus nous dit, c'est de là que vous pouvez partir. Faites la liste de tout ce que vous attendez des autres, en attitude, en parole, dans les différents domaines de votre vie ou de votre activité. Faites la liste. Mais ensuite, arrêtez-vous et pensez à l'autre et dites-vous, voilà exactement ce que lui, ce qu'elle, ce dont lui, ce dont elle a très certainement besoin aussi. Voilà exactement ce que lui, ce qu'elle est en droit d'attendre de moi. Ce qui me semble légitime pour moi, l'est pour lui, pour elle aussi. Ce que je revendique pour moi, je peux le donner moi aussi en tout premier. Tout ce que vous voulez que les gens, que les autres vous fassent, faites-le de même pour eux. Que l'on s'entende bien, il ne s'agit pas d'un calcul de type donnant-donnant. Si Jésus avait eu cela en vue, il aurait dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux, sous-entendu pour recevoir ensuite la monnaie de votre pièce. » Mais Jésus dit simplement « Fais-le de même, faites-le de même. » Et cette simplicité dit la grandeur morale de sa parole. Car elle implique que nous disions sans cesse et à tout propos, je reconnais à l'autre, à mon prochain, tous les droits que je me reconnais à moi. Et nous touchons ici au principe qui porte cette parole de Jésus. C'est un principe d'égalité. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, nous le savons. Mais Jésus pousse ce principe d'égalité pour nous conduire à le mettre en œuvre, pas juste à dire voilà un principe global d'égalité, mais à le mettre en œuvre. À chaque fois que je pense à mes droits, à mes désirs, je suis invité à entrer dans la réciprocité. Il y a comme une espèce de réflexe à cultiver. Ce que je souhaite pour moi, je veux être prêt, je dois être prêt à le donner à l'autre. Et ceci de manière normale, c'est comme ça que l'on peut juste penser les choses, penser la vie. Je ne suis pas sublime en pensant cela. J'applique juste un principe basique d'égalité, de réciprocité, qui est appelé à prendre sa place au fond de moi. L'égalité ne fonctionne jamais à sens unique. Si j'ai les mêmes droits que les autres, je dois leur accorder ces mêmes droits. Si je pense à quelque chose de légitime pour moi, je dois penser que c'est légitime pour d'autres à situation comparable. On ne peut pas revendiquer l'égalité des droits sans réciprocité. Alors il faut bien reconnaître qu'ici Jésus nous piège un peu quand même. Il nous rejoint sur un terrain ambigu. Voyons ensemble la liste de tes attentes par rapport aux autres. Et cette liste, on sait, elle peut être aussi facilement le lieu de notre égoïsme, de nos exigences, de notre ressentiment. Et Jésus entre avec nous dans cette liste, mais pour la retourner en quelque sorte, cette liste, et pour l'ouvrir, pour transformer les attentes tournées vers nous en attitudes qui seront tournées vers l'autre, pour transformer nos exigences à l'égard des autres en engagement tourné vers eux. J'attends une qualité de travail des autres. Ok, c'est légitime. Mais je m'imposerai aussi dans mon travail les mêmes qualités que celles que j'attends des autres. Et si j'ai éprouvé des déceptions, j'aurai à cœur de ne pas reproduire ce qui m'a blessé dans mes relations avec les autres, mais au contraire, à le transformer positivement. Vous voyez, c'est une espèce d'immense recyclage auquel le Seigneur nous invite à partir de nos désirs, de nos besoins, de nos attentes, pour aller vers l'autre. Un recyclage régulier, constamment, à l'égard de toute chose. Je pense quelque chose pour moi, légitime pour moi, je recycle cela, de telle sorte à ce que cela puisse aussi atteindre l'autre, comme une sorte de réflexe. Jésus veut donc changer notre regard sur nous-mêmes, sur les autres. Mais il vise plus. Ce qu'il désire, c'est notre action. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le. Faites-le pour eux. Jésus veut que cette réflexion nous pousse à l'action. Cette action pourra consister en certaines initiatives que nous prendrons, que nous choisirons. Tu sens le besoin qu'on vienne à toi, qu'on s'intéresse à toi? Pense peut-être à d'autres qui, dans bien des situations, ressentent ce même besoin que tu éprouves toi-même si fortement. Et saisis justement l'occasion de ce que tu as discerné là en toi pour aller vers d'autres, pour aller vers l'un, vers l'autre qui peut avoir besoin justement qu'on s'intéresse à lui. Tu sais, tu as senti en toi-même combien ce besoin peut être fort. Fais-le. Sers-toi de cela pour recycler vers d'autres ce que tu as discerné comme étant important. Et probablement, en faisant cette démarche, tu te sentiras bien mieux qu'en cultivant l'attente des autres et en remâchant tes frustrations. Tu sens le besoin qu'on t'encourage, qu'on te donne de temps en temps une bonne tape sur l'épaule pour dire « vas-y, avance ». Écoute, regarde un peu autour de toi. Regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui, pourquoi pas, aurait besoin lui aussi d'une parole d'encouragement, d'une petite tape sur l'épaule pour lui faire du bien. Deviens autour de toi un encourageur. Si tu as éprouvé, si tu éprouves en toi-même le besoin de l'encouragement, et probablement tu en retireras de la joie. Tu désires qu'on te comprenne, qu'on t'écoute, qu'on soit sensible à ce que tu ressens. Tu as souffert peut-être même d'être mal jugé. Deviens autour de toi quelqu'un qui s'emploie à écouter justement, qui s'emploie à offrir une oreille attentive et un accueil du cœur. Cherche à comprendre plutôt qu'à juger à l'emporte-pièce. Favorise la vérité, la bienveillance, plutôt que de distiller le soupçon ou de répandre la critique. Et probablement, tu en retireras la joie de relations meilleures. Tout ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites-le pour eux. Voilà une façon dont Jésus nous invite à recycler nos attentes, en faire autant d'initiatives vers l'action. Faites-le pour eux. La ligne est claire et elle peut nous mener quand même assez loin. Mais son application demande quand même certaine prudence. Et j'aimerais souligner maintenant ce point-là en méditant cette parole, car Jésus n'applique pas cette parole n'importe comment. Il nous invite par elle à accomplir la loi et les prophètes. Et c'est avec cet arrière-plan qu'il donne ce principe de conduite et dans ce cadre. Et cela implique un certain nombre de prudence dans la façon dont nous pouvons nous approprier et mettre en œuvre cette parole. Une première prudence consiste à réfléchir à ce qu'il est légitime de désirer pour soi et pour les autres. Ce qui est légitime et ce qui peut-être est moins légitime de désirer pour soi et pour les autres. Nous le savons, nous pouvons avoir des désirs exagérés, des désirs insensés, des désirs égoïstes. Je peux désirer que, par exemple, tout le monde soit à mon service. Ou je peux désirer que l'on ne me contredise jamais. Ce n'est pas ce genre de désir qui doit devenir la base de mon désir pour les autres. Il me faut quand même réfléchir à ce que je mets en œuvre lorsque je dis que je désire qu'on me fasse, je le fasse aussi aux autres. Il me faut toujours évaluer la légitimité et la justesse de ce que je désire, pour moi comme pour les autres. Si par exemple je disais « je n'aime pas être contredit, donc je ne vais jamais contredire les autres », on pourrait dire que j'applique la formule de Jésus, puisque ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne le fais pas. Mais je ne l'appliquerai pas légitimement, me semble-t-il, car pour Jésus, la contradiction est parfois nécessaire. Jésus a repris ceux qui faisaient le mal. Il a dénoncé les hypocrisies. Et les proverbes, qui font partie de la loi et des prophètes, nous disent qu'accepter les réprimandes, cela nous apprend la sagesse. Donc la règle d'or que Jésus nous donne ne doit pas nous faire basculer dans le n'importe quoi. Il ne s'agit pas de prendre n'importe quel de nos désirs et de dire « je vais essayer de l'appliquer de cette façon-là à d'autres ». Ça ne court-circuite pas, ça ne court-circuite jamais l'évaluation de ce qui est juste, de ce qui est droit pour moi comme pour les autres. Et c'est une première prudence, me semble-t-il, lorsque l'on essaye de réfléchir à cette parole de Jésus. Il nous faut toujours évaluer ce qui est juste, ce qui est droit dans nos désirs pour nous-mêmes comme pour les autres. Une seconde prudence consiste à respecter, me semble-t-il, les différences de situation et de personne. Comment, par exemple, un enseignant qui est exigeant à l'égard de ses élèves va pouvoir s'appliquer cette parole ? Ce que vous voulez que les gens vous fassent, faites-leur de même. Comment peut-il appliquer ça à la relation avec ses élèves ? Il faut absolument que cet enseignant continue de respecter la différence entre sa position d'enseignant et la position de ses élèves. Le principe de réciprocité ne va pas niveler la relation en disant « finalement, on est tous pareils, on se demande la même chose, il n'y a plus de différence ». L'enseignant qui en demande beaucoup à ses élèves en tant qu'élève va s'imposer beaucoup à lui-même, mais à lui-même en tant qu'enseignant. Je demande à mes élèves d'en faire beaucoup, ok, d'accord, mais ça implique que pour moi, en tant qu'enseignant, j'en ferai beaucoup aussi, mais c'est moi en tant qu'enseignant et eux en tant qu'élèves. On ne gomme pas la différence. La responsabilité de l'enseignant est différente de celle des élèves et c'est dans sa responsabilité à lui que l'enseignant devra essayer d'avoir s'appliquer les mêmes principes de ce qu'il attend de ses élèves. Pas de nivellement des situations donc. C'est à des situations comparables que l'on appliquera la règle de réciprocité et c'est en tenant compte des différences. Une troisième prudence consiste à respecter le vis-à-vis et l'altérité des personnes. Ce qui me semble bien pour moi ne correspond pas forcément à l'autre. Vous savez, ces gens qui parfois font un cadeau d'anniversaire, ils offrent à l'autre ce qu'ils aimeraient recevoir. C'est gentil d'un côté, mais il faut juste s'assurer que ça correspond quand même un peu à l'autre. Hein ? Je ne vais pas imposer mes désirs aux autres sous couvert de réciprocité. Je dois tenir compte du fait qu'ils sont différents de moi et adapter mon souci d'équité à ce qu'ils sont. Une dernière prudence, enfin, consiste à respecter le cadre et le contexte dans lequel on se trouve. Comment, par exemple, appliquer cette règle d'or de Jésus, tout ce que vous voulez que les autres fassent, faites pour vous, faites-le pour eux, si dans mon travail, je suis impliqué dans une négociation, je négocie ferme. Comment est-ce que je peux appliquer cette parole ? Une impasse totale, ce serait de dire de manière simpliste, de quoi aurais-je envie, moi ? J'aurais envie de gagner la négociation. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour l'autre ? Je vais lui faire gagner la négociation. Ça, c'est juste de manière absolument simpliste. Hein ? Si c'est comme ça qu'il faut faire pour lui ce que je voudrais qu'on me fasse. En agissant de cette façon, on détruirait tout simplement le cadre de la négociation. Et on passerait à côté de la responsabilité de chacun en tant que négociateur. Ce qui veut dire qu'il faut trouver le juste terrain où appliquer cette parole de Jésus dans un cadre comme celui-là. Alors quel peut être ce juste terrain ? Ce que j'attends de l'autre dans une négociation, c'est sa droiture. Ce que j'attends de l'autre, c'est le respect de la parole donnée. Ce que j'attends de l'autre, c'est le souci d'un juste prix. Ce que j'attends de l'autre, c'est qu'il ne me trompe pas sur la marchandise. Et cela, je dois me faire un devoir de l'appliquer de manière réciproque, mais en respectant le cadre d'une négociation avec ses dits, ses non-dits et la responsabilité de chacun. Vous voyez, c'est quelques exemples, mais pour nous aider à nous dire, on ne doit pas appliquer cette règle Jésus de manière simpliste. Il s'agit de saisir, de respecter aussi le cadre, le contexte dans lequel on se trouve. Mais toujours est-il que Jésus nous invite à avoir une démarche un peu imaginative pour le bien de l'autre. Comment aimerais-je être traité si j'étais dans sa situation ? Et il y a là, me semble-t-il, quand même une aide, un décentrement que Jésus nous laisse admirable, exigeant. Mais aussi, me semble-t-il, une piste qui permet de régler harmonieusement tant de situations où on s'affronte parce qu'il n'y a que le moi, moi et rien que moi. L'ouverture que Jésus nous propose est une aide très concrète, car elle nous invite à intégrer la situation de l'autre dans notre pensée et à ne pas tout voir simplement de notre point de vue à nous. Et tellement de choses bloquent parce qu'on voit les choses qu'à partir de notre point de vue à nous. Jésus dit, intègre ton point de vue, mais reporte-toi vraiment sur l'autre aussi, véritablement. Alors bien sûr, cette situation, cette indication de Jésus est exigeante à cause de ce principe d'équité. Je dois rester juste, je dois donner à l'autre les mêmes devoirs, les mêmes droits, dans une réciprocité qui m'engage pleinement. Mais cette démarche doit être responsable, cohérente avec l'ensemble de ce que l'Écriture m'enseigne et respectueuse de ce qui est juste. C'est ce que nous avons essayé de dire avec les quelques exemples qui montrent le fonctionnement. Et c'est pourquoi d'ailleurs, tout en ayant parlé au début d'un principe d'égalité, que Jésus nous invite à respecter, égalité des droits, je termine avec la notion un peu plus précise d'équité. Au nom de l'égalité, on peut justifier n'importe quoi. Si on fait l'égalité basique sans prendre en compte les situations, on peut justifier n'importe quoi. L'égalité de chacun, le même salaire, qu'on travaille plus, qu'on travaille moins. Au nom de l'égalité, on peut tout justifier, tout et n'importe quoi. L'équité, c'est beaucoup plus exigeant. Parce que l'équité, ça demande à prendre en compte la justesse des situations, la justesse des choses, à analyser ce qui est juste et droit. L'équité introduit cette notion d'évaluation des situations et de justesse. Et Jésus nous invite toujours à cette responsabilité. Et Jésus nous a donné lui-même l'exemple de la façon dont vivre cela. Car cette règle d'or, il se l'est appliquée lui le premier. Nous avons évoqué tout à l'heure la réalité de sa mort, de sa venue, de ses souffrances pour nous. Jésus possédait toute la gloire du ciel, toute la suffisance du ciel. Son désir a été de conduire à la gloire une multitude de fils et de filles. Ce qu'il avait pour lui, il l'a voulu pour nous. Et pour cela, il a beaucoup donné. Il s'est donné pour nous. Il ne s'est pas complu en lui-même. Il nous a voulu riches de ses richesses. Il nous a voulu aimer de l'amour qu'il recevait lui-même du Père. Et là, cette belle parole qui dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Comme le Père m'a aimé. Jésus mesurait ce que signifiait l'amour du Père pour lui. Et il dit « Cet amour du Père que je reçois du Père, je veux vous le donner. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Et il poursuit en disant « Demeurez dans mon amour. » Alors oui, demeurons dans son amour. Cet amour d'ouverture, cet amour de vraie place faite à l'autre. Nous en savons la bonté, la beauté, la fécondité. À nous de jouer, aujourd'hui, demain, encore et encore. Amen.